des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, je suis Clotilde Seille. Je vous présente aujourd'hui encore des livres plein les oreilles. Quand on évoque le nom de Jean-Marie Lapointe, les réactions sont toujours les mêmes. Ah oui, il est fantastique ce type-là. Un humain comme on en souhaiterait plus encore sur cette planète. Il a accepté aujourd'hui, Jean-Marie Lapointe, de nous parler de ceux qui, un jour ou toujours, sont face à la rue. Ce livre est maintenant enregistré et c'est tant mieux si cela peut nous aider à changer notre regard vis-à-vis de ceux que la détresse dérange. Yannick Olassa sera aussi de cette émission. Elle se penche sur Débâcle de Lise Spitt, qui a bien failli se retrouver dans la liste officielle des finalistes du prix des libraires. Et puis je vous propose aussi quelques coups de cœur de lecteurs, ainsi que de Faline Bobier, qui viendra en seconde partie nous présenter quelques nouveautés qu'on peut trouver sur le site de Caeb. L'actualité du livre audio, c'est à Canalem que ça se passe. On va commencer avec cette chanson qui va mettre la table en quelque sorte, pour Jean-Marie Lapointe. Elle est chantée par Ariane Moffat, ça s'appelle Domenico.
J'ai rangé mes pinceaux, mes photos, mes couleurs. J'ai éteint mon synthétiseur et remis mon chapeau. Je suis partie en douceur. J'étais trop fatiguée. L'avenue du parc m'a dit allez.
Être face à la rue, ce livre fait suite à une série, en deux parties d'ailleurs, Face à la rue, toute une expérience vécue par Jean-Marie Lapointe qui a eu besoin, en plus de cette série, de coucher des mots de toutes ses expériences et rencontres avec le peuple de la rue, tellement pauvre mais tellement riche en enseignements de la vie. Bonjour Jean-Marie Lapointe.
Bonjour Cathy.
Jean-Marie, vous écrivez que vous espérez que ce livre apportera un regard nouveau face à l'itinérance. C'est tellement difficile de faire changer la mentalité face aux personnes qui vivent dans la rue, hein?
C'est difficile parce qu'on ne donne pas la chance à une rencontre d'arriver. Ouais. Quand on est peut-être un peu intimidé parce qu'on a peur, parce qu'on se sent inadéquat dans notre façon d'adresser la parole à un autre être humain, tout simplement, et que cette différence-là, cet écart en apparence entre le pauvre mec qui est dans la rue, qui est assis sur une boîte de carton humide, et que toi, tu es dans ta voiture, tu te dis « My God, comment est-ce que le gars s'est ramassé là? Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? » Déjà là, quand tu commences à te poser des questions, c'est qu'il y a peut-être même un intérêt, donc c'est pas indifférent. Donc, alors, il faut juste se donner une petite chance et d'aller vers l'autre, et en posant un tout petit geste qui est juste de le regarder. Pour commencer, de le regarder, de ne pas l'éviter. Et peut-être après ça, ben de baisser sa vitre puis de lui dire bonjour, bonne journée, même si on n'a pas de pièce de monnaie, même si on n'a rien à offrir en retour, au moins on le traite comme un être humain et non comme un sous-humain, qui est pire.
Parfois, et je dois dire que je suis la première à faire ça, j'ai l'impression que lorsque je leur souris en leur souhaitant bonne journée sans les aider ni financièrement, ni avec quoi que ce soit, simplement parce que j'ai rien à ce moment-là, j'ai plutôt l'impression, en tout cas, qu'ils pourraient penser que je les niaise plus qu'autre chose. Alors j'ai tort de penser ça.
De les niaiser?
Alors non, mais dans le sens, c'est pas le bon mot, Jean-Marie, de pas les respecter finalement, sourire.
C'est tout le contraire.
Moi, c'est tout le contraire.
C'est la moindre des choses, au mm-hmm. moins de reconnaître qu'il y a un autre être humain devant soi,
oui.
et de lui dire bonne journée, de lui souhaiter de faire attention à lui, de lui demander son prénom, c'est déjà beaucoup, de s'intéresser à l'autre assez pour lui demander c'est quoi ton nom, moi c'est Clotilde, moi c'est Jean-Marie, quel est ton nom, bonne journée, et peut-être d'engager la conversation. C'est juste que notre rapport au temps est peut-être un peu malsain, c'est-à-dire qu'on est tellement pressé par le temps, vite, vite, vite à mon rendez-vous, vite au gym, vite au travail, vite pour aller chercher mes enfants à l'école, vite, vite, vite. Donc, cette espèce d'empressement à aller à un autre rendez-vous nous empêche peut-être de vivre la vie, quelle qu'elle soit, telle qu'elle se présente à nous. Donc, tu sais, c'est pas John Lennon qui disait « La vie, c'est ce qui se passe quand on est trop occupé à faire des plans puis des projets. » Ben justement, y a-t-il quelque chose de si urgent que ça? T'sais, oui, ça se peut que des fois, on n'a pas le temps de s'arrêter, mais on est capable de prendre le temps, deux secondes, de baisser sa vitre quand on est au coin d'une rue et on voit quelqu'un qui vient nous commander un peu d'argent ou qui veut nettoyer les vitres de notre voiture. Ben tu peux quand même au moins lui dire « Écoute, bonne journée, j'ai pas de sous avec moi aujourd'hui, je peux te souhaiter une bonne journée. » Ça, c'est la base.
Je suis sûre, Jean-Marie, d'ailleurs, à un moment donné, vous le dites très bien dans ce livre, vous dites que vous vous êtes aperçu en filmant cette série-là que ce qui manque le plus aux personnes sans-abri, aux itinérants, c'est pas forcément l'argent, tout ça, c'est aussi le fait qu'on ne les considère pas comme faisant partie de cette société-là, quoi. Ils sont doublement exclus.
Ben, c'est la pire des pauvretés. C'est
exactement.
Ce que Mère Teresa chantait et elle disait, c'est la pire des pauvretés, c'est l'isolement, c'est de ne pas être aimé, c'est de ne pas être reconnu. Puis, tu sais, la dernière chose que moi, je veux que les gens retiennent de notre entretien, c'est que j'ai l'air d'avoir tout compris ça, puis que je suis évolué, puis j'ai avancé, puis je suis rendu un maître bouddhiste. Non, c'est pas ça pendant tout. C'est l'affaire, c'est que moi, j'ai moi-même été dans le malaise très longtemps. J'ai moi-même changé de côté de rue pour éviter de rencontrer quelqu'un qui était dans la rue. J'ai moi-même fait semblant de pas les voir. Si j'étais dans l'auto, je voyais le gars arriver, ben quelques secondes avant, je faisais semblant d'avoir un téléphone important, puis je prenais mon téléphone cellulaire. À l'époque, on avait le droit, puis que c'était pas interdit de prendre un téléphone dans nos mains. Ben je prenais mon téléphone, puis je faisais semblant d'avoir une conversation importante, plus importante que de m'adresser au pauvre mec qui s'en venait demander quelque chose. Donc, tu sais, il faut reconnaître ses propres souffrances, sa propre impuissance pour pouvoir être capable de comprendre que, aïe, aïe, quand je me comporte comme ça, ben je fais souffrir plusieurs personnes, y compris moi-même.
Et puis, oui, pardon, Jean-Marie.
Ben c'est ce qui a aussi amené à vouloir faire une série télé sur l'itinérance, parce que je me suis dit, si moi j'ai compris certaines petites choses dans mes comportements, on est peut-être une gang à avoir ces mêmes comportements-là. Donc, si on s'intéresse à l'être humain, si on comprend qu'est-ce qui a pu se passer dans sa vie pour qu'il se retrouve en situation d'itinérance et qu'il ait tout perdu, ben on sera plus dans le jugement. On risque plus d'être dans la compassion. Puis c'est quand on est dans la compassion, ben comme Mathieu Ricard me dit souvent, il le dit dans ses conférences, puis qui est un moine bouddhiste, puis un être assez évolué, merci, il dit « L'être humain ne peut pas simultanément tendre la main et donner un coup de poing. Du même geste, c'est l'un ou l'autre. Tu ne peux pas, autrement dit, juger ou aimer. C'est l'un ou l'autre. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. » Donc, quand tu t'intéresses à l'autre, ben, tu es plus dans l'amour, tu es plus dans le jugement. Et généralement, quand tu t'es intéressé à l'autre, tu as compris un peu plus quelle est sa réalité. Donc, tu n'es plus dans le jugement. Et c'est ça qu'on a voulu faire avec la série Face à la rue. C'est ce qu'on a voulu prolonger avec le livre « Être face à la rue ».
Et je vous remercie de l'avoir précisé, parce que si vous êtes face, on va dire, à l'homme en général de la rue, comme quelqu'un, vous l'avez dit vous-même, qui au départ aviez porté des jugements, vous ne portez pas non plus de jugements contre ceux qui en ce moment ne sont pas capables de tendre la main envers
Exactement.
Ces gens-là.
C'est un bon résumé. Je ne suis pas plus dans le jugement envers ceux qui sont dans la rue que ceux qui les jugent.
Jean-Marie Lapointe, vous avez vous-même vécu, et vous en parlez d'ailleurs un peu dans le livre, des moments difficiles. Moi, j'ai été bouleversée aux larmes lorsque j'ai entendu, par exemple, ce que vous disiez au moment de la mort de votre maman, qui est décédée quand même assez jeune, après des moments extrêmement difficiles.
Et... Oui.
Pardon, non, c'est ça. Et donc, je me disais, c'est sûrement pour cela que vous êtes devenu l'être humain que vous êtes devenu. Et je voudrais aussi en revenir à ce que votre ami Jean-Pierre, à un moment donné, vous dit. Lorsqu'il vous dit que pour vous, le besoin d'aimer est plus fort que le besoin d'être aimé. C'est extrêmement rare, ça.
Oui, ben, en même temps, je pense que c'est une position que tout être humain devrait avoir. C'est-à-dire qu'on peut pas demander à quelqu'un de nous aimer. On peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Par contre, quand on est dans une autre posture, celle d'aimer, celle de tendre la main, celle d'aller vers l'autre, ça, nous sommes tous capables. Et ça, on attend personne. Ça dépend de personne sauf de soi-même. Donc, quand on est en mode « je vais donner, je vais aimer », c'est fou comment, en retour, on se fait aimer et on se reçoit, on reçoit soi-même une tonne d'amour. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que ça devient plus l'intention, ça devient pas hypocrite dans le sens que, bon, ben si je veux être aimé, je vais aimer, puis ça va être ça ma motivation. Je veux être aimé, mais c'est déguisé sous la forme du gars qui est généreux, puis c'est pas ça du tout. Mmh. C'est vrai que ce besoin d'aimer-là change la perspective, parce que effectivement, je suis plus dans l'ego, je ne suis plus dans l'ego, mais je suis plus dans le cœur.
Exactement.
Dans l'action d'aimer. Donc, et la compassion ne vient pas de nulle part. Elle vient de la souffrance, elle vient d'épreuves, elle vient d'expériences inconfortables. Donc, c'est tout ça, ma vie, d'avoir des parents qui souffrent d'alcoolisme, d'avoir perdu ma mère très jeune, d'avoir perdu des proches, d'avoir souffert d'un manque d'argent, ça a attisé ma compassion puis ma sensibilité envers les autres. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis capable d'aller à la rencontre de l'autre. Puis quand il me parle de quelque chose qui est lourd pour lui, ben plutôt que de me décoiffer, peut-être que je reconnais certaines de mes expériences dans la sienne, mais c'est peut-être parce que ça a forgé mon cœur les 20, 25, 30 dernières années à être capable d'entendre de façon aimante l'inconfort de l'autre sans pouvoir peut-être pas toujours savoir quoi faire, mais tu sais, je peux
non,
quand même
sûr.
Sentir de l'altruisme envers lui puis lui souhaiter, écoute, à défaut de pouvoir t'aider, je peux-tu au moins te souhaiter une bonne journée puis que tu puisses trouver une réponse à ta question puis une solution à ton problème.
Jean-Marie Lapointe, on va se quitter dans quelques secondes. Je rappelle le titre de ce livre, Être face à la rue. Je voudrais, pour vous rendre hommage et pour aider peut-être l'auditeur à tendre cette main-là et à faire ce sourire-là, donner un outil, moi, qui m'a aidé beaucoup dans votre livre. Vous écrivez, durant les tournages, j'ai souvent pensé aux parents et aux proches de ceux que je croisais dans la rue, avec qui j'échangeais pendant quelques minutes. Je me mettais à leur place en imaginant ce qu'ils pouvaient se dire. J'espère qu'en ce moment, il y a quelqu'un, quelque part, qui est avec mon fils, ma fille ou mon père, et qu'il est gentil avec lui ou elle, et qu'il en prend soin. Ça change tout à coup ma façon d'intervenir. Ça aide beaucoup, ces mots-là. Ça aide beaucoup.
Moi, je pense que c'est l'argument massue.
Massue, c'est ça.
Qui aide à une personne de voir l'autre différemment. Parce que ça se peut que ça ne te tente pas d'aider le gars ou la fille que tu vois dans la rue. Ça se peut très bien parce que la personne est repoussante, elle sent mauvais, elle est violente. Bon, peu importe. elle est maladroite dans sa façon de demander de l'aide. Ça se peut. Mais quand tu penses au père de cette personne-là, au frère de cette personne-là, aux proches qui s'inquiètent à savoir qu'est-ce qui se passe avec mon fils, ma femme, mon père, puis que moi, je me dis, ben je vais penser à ce gars-là en me disant, ben écoute, je suis en train de faire quelque chose de bien et de bon pour cette personne-là qui n'est plus dans votre vie. Vous n'êtes peut-être pas capable de l'aider, ben moi, je vais faire ma part.
Jean-Marie Lapointe, pour vous, pour eux, pour tous ceux qui sont dans la rue, je vous offre cette chanson de Gilles Vigneault, La balade d'un sans-abri, et je vous remercie infiniment d'avoir participé à l'émission Des livres pleins les oreilles.
Ah, ça me fait plaisir, merci de ce beau cadeau. À bientôt.
Au revoir.
J'avais 10 ans lorsque mon père nous a laissés. La vie, c'est une forêt de misère à traverser. Mon frère est parti militaire, ma sœur est entrée au couvent. À la petite voile, faut toujours faire avec le vent. Des cours du soir, une bonne mémoire, je passe les détails. Je suis devenu un prof d'histoire, un vrai travail. Un beau matin, un jeune tout croche, comme mes remarques avaient fauché, a sorti un couteau de sa poche, j'ai décroché. J'étais marié, mais mon divorce a pas tardé. La cour, c'était au-dessus de mes forces, j'ai rien gardé. Plus de char, plus d'heures, plus de compte à rendre, plus d'examen, plus rien de côté. T'es dans la rue, tu viens d'apprendre la liberté. Joe, c'est mon chien, un soir d'automne, il m'a suivi. Quand on n'a rien, on vaut ce qu'on donne, je l'ai nourri. Chien sans collier, clochard sans laisse, on se ressemblait, on s'est reconnu. Deux purs bâtards de haute noblesse, le cœur tout nu. Je l'ai appelé Joe parce que mon frère s'appelait comme ça. Marcher au pas, c'est une carrière que j'aimais pas. Puis y a des choses que les chiens comprennent mieux et plus vite que les humains. La liberté, l'amour, la haine et le destin. Joe a les yeux de son ascendance, un bleu, un noir. Je lui dis souvent, t'as bien de la chance, ça te permet de voir. Un t'es pareil dans un bulldog et les deux côtés d'un miroir. Et dans les paradis de la drogue, le désespoir. Dans les églises, dans les refuges, ils prennent pas de chien. Je comprends, ça ferait tout un grabuge, chacun le sien. Ça fait qu'on se couche toujours ensemble dans les poubelles de la société. Des fois on dort, des fois on tremble, même en été. Comprends-moi bien, j'accuse personne, je connais mes torts. Je deviens doucement un autochtone dans ton décor. Dans les journaux dont je m'isole, je lis souvent le triste sort des pays où l'argent rigole avec la mort. J'ai 60 ans, des fois je rêve que je viens de trouver une petite cabane sur le bord d'une grève, puis que c'est l'été. J'aimerais bien que mon histoire finisse un peu mieux qu'elle a commencé. J'attendrai pas que la police vienne nous pincer. La terre est une manufacture de sans-abri. J'envoie une gang sur la clôture qui m'ont compris. Chaque fois que tu changes de frigidaire, tu viens de me construire un logis. Jette pas la boîte, y a des affaires qui n'ont pas de prix. La ville, c'est rien qu'un grand village exproprié. Ça tolère pas dans l'engrenage un sablier. Y a pas eu de champ ni les grandes orgues, mais par un 30 en bas de zéro, on l'a trouvé prêt pour la morgue comme son chien Joe.
On va se tourner maintenant vers la littérature de Lise Spitt via Yannick Olassa qui doit être au bout du fil. Bonjour Yannick.
Bonjour Clotilde.
Alors Yannick, Lise Spitt, elle ne se ramasse pas finalement hein, parmi les finalistes du prix des libraires, mais ils avaient l'embarras du choix, mais c'est pas parce que c'est pas bon, parce que ce livre est absolument remarquable et je compte sur vous pour nous en parler.
Tout à fait. Écoutez, on est à Bovenmeer, en Flandre, en 1988, et il y a seulement cette année-là trois enfants qui sont nés dans le petit village. Eva, Pim et Lorraine. Donc, inévitablement, ils deviennent inséparables. Par contre, l'été de leurs 14 ans, les garçons concoctent un plan pour amener les filles à se déshabiller devant eux ou à les forcer à des actes sexuels. En fait, ils ont décidé de demander aux filles de résoudre une énigme et à chaque mauvaise réponse, elles doivent se départir d'un vêtement. Eva, en fait, est complice dans tout ça parce que c'est elle qui fournit l'énigme que les garçons ne connaissent pas. Bon, 13 ans plus tard, en fait, Eva retourne pour la première fois à Beauvenir. Elle y retourne à reculons et on devine que l'amitié entre les trois, là, les trois mousquetaires, s'est mal terminée. Et cette fois-ci, c'est elle qui a un plan. Je vous en lis tout de suite un extrait, puis après, je vais continuer à commencer.
D'accord.
Après avoir accroché mes moufles et mon manteau, j'ai épluché une pomme de terre pour le repas du soir en enlevant les ramures qui avaient germé à la lumière du jour. Puis j'ai rempli la bouilloire et pour qu'elle comprenne bien qu'il fallait se dépêcher, j'ai mis le faitou directement sur la flamme la plus forte, à sec. En attendant, je pouvais me pencher sur cette lettre. Mon nom et mon adresse avaient été écrits à l'encre noire par une main que je connaissais, mais que je n'arrivais pas immédiatement à situer. Avec la pointe de l'épluche-légumes, j'ai ouvert l'enveloppe. Sur une carte blanche, il y avait une photo d'un bébé et un prénom. Je n'avais pas besoin d'examiner véritablement l'image, le nom ou la date pour savoir qu'il ne s'agissait pas d'un faire-part de naissance, mais d'un portrait de Yann. Cette année, le 30 décembre, il aurait eu 30 ans. J'ai de nouveau posé mon regard sur l'adresse, sur le nom de ma rue. Les pattes en mouche avaient griffé le papier en profondeur. Leurs jambages avaient sautillé, jusqu'au-dessus des lignes guides. C'était l'écriture de Pim, évidemment. Pendant des années, j'avais été sa voisine de classe. Je l'avais vu répondre aux interrogations écrites, mais jamais je n'ai compris pourquoi il appuyait si fort sur son stylo. Ses réponses n'en étaient pas plus justes. Pim avait donc trouvé mon adresse. Il l'avait recopiée soigneusement, lettre par lettre. L'invitation elle-même était imprimée. À l'intérieur de la carte, il y avait un petit bloc de texte explicatif. « Chère, les pointillés faisaient place à mon nom, écrit à la main. « Comme vous le savez tous, c'est ce mois-ci que Yann aurait fêté son 30e anniversaire, mais aussi que nous inaugurons notre site de production laitière presque entièrement automatisé. L'occasion de se retrouver autour du verre de l'amitié. J'ai retiré mes chaussures pour sentir le bois tendre du parquet sous mes pieds. La fête posthume de Yann était devenue un coup publicitaire, histoire de faire venir le plus de monde possible au lancement d'une nouvelle boîte. Je ne suis pas allée plus loin. L'invitation s'est retrouvée dans la poubelle avec les épluchures de pommes et le reste de courrier. J'ai ouvert le robinet en grand. J'ai tendu mes poignets sous le jet d'eau froide et je me suis aspergé le visage. » Écoutez, c'est un roman
qui fait mal, hein?
Oui, absolument, qui fait mal. Bon, je dois dire que peut-être que la première partie, la première moitié, peut-être un peu longue, mais ça vaut la peine de s'accrocher.
Oui, parce que il y a trois enfants, la trinité est importante hein, là-dedans. Il y a ces trois enfants, mais il y a aussi trois fils conducteurs, hein, je pense. On suit d'abord les enfants jeunes, ensuite celle qui revient et qui essaie de comprendre. Et puis, on suit les parents aussi, non?
Tout à fait.
Ah, c'est ça.
Les parents qui ne sont pas des parents modèles non plus.
Non, c'est ça. Ils ont vécu
Ils ont vécu toutes sortes de choses. Puis c'est aussi leur relation aux enfants, mais aux relations des enfants entre eux aussi, aux agissements des enfants. C'est vraiment, les personnages sont juste, mais merveilleux. Tout comme l'image de la société que l'auteur dépeint. Hein. C'est une écriture sans phare où le suspense est maintenu tout au long du récit, là, mais jusqu'à la toute fin. Puis des questionnements, on se demande pourquoi elle collabore avec les garçons. L'adulte en nous se demande pourquoi elle collabore avec les garçons, pourquoi elle réagit de telle façon à telle
chose. Parce que ce sont des jeux d'une cruauté terrible. Pardon de vous interrompre, mais bon, on en parle comme ça, mais lorsqu'on est la fille qui doit se déshabiller parce qu'on a donné la mauvaise réponse, enfin, ça ne peut pas ne pas laisser de cicatrices à l'âme, ça.
Ah, tout à fait, tout à fait. Et puis, ce qui va se passer entre les garçons et Eva, à la fin de cet été-là, va vraiment la marquer. Hein. D'ailleurs, c'est ça, c'est vraiment, on parle des jeux d'enfants qui tournent mal, de la souffrance, des blessures subies à une période charnière aussi et déterminante de nos vies. C'est merveilleux.
Dans Le Monde, on lisait le 13 février 2018, la jeune et jolie romancière flamande est en quelque sorte une anti-Elena Ferrante. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'on est bien dans Le Monde parce qu'on accole à jeune, jolie. Hein, on ne verrait jamais ça ici, sur le continent nord-américain. Je veux dire, qu'est-ce que ça aurait été si elle avait été, entre guillemets, d'après les Européens, moche. Est-ce qu'on aurait écrit là? Enfin bon, je referme la parenthèse. Donc la jeune et jolie romancière flamande, écrit-on dans Le Monde, est en quelque sorte une anti-Elena Ferrante. Elle livre ici une fable d'une incroyable cruauté sur l'amitié et l'adolescence. Vous avez lu Ferrante, vous?
Non, je n'ai pas lu Ferrante, mais j'ai regardé la série.
Bon, parce que moi, j'ai lu et j'ai jamais été capable. Alors, d'ailleurs, ça avait donné lieu à une grande discussion avec Martine Delvaux, d'ailleurs, me semble-t-il me souvenir. Alors, Yannick, on se laisse là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir proposé cette lecture, ce livre qui s'appelle « Débâcle » et qui est signé Lise Spitt. Et on se retrouve dans quelques semaines.
Au revoir.
Au revoir. On revient dans quelques secondes. Des livres plein les oreilles, la suite. Beaucoup de suggestions à vous faire, toujours des livres audio bien sûr, puisque vous écoutez Des livres plein les oreilles. Je suis Clotilde Seille et j'ai envie de vous proposer comme chaque semaine des livres sonores offerts sur des plateformes ou bien d'autres. On commence cette seconde partie avec une suggestion de ma part, tiens. Quoique non, c'est pas vrai, c'est la suggestion d'un ami qui a porté à mon attention le nom d'un auteur. J'ignorais son nom seulement, autrement dit j'en ignorais tout. Il s'appelle Sylvain Tesson, il est publié chez Gallimard et du coup, eh bien, il est publié aussi chez Écoutez lire de chez Gallimard. Si vous le voulez, on écoute Sylvain Tesson puisque c'est lui qui nous lit un extrait de la première nouvelle de son recueil de nouvelles qui s'appelle « S'abandonner à vivre ».
S'abandonner à vivre. Sylvain Tesson. Les amants. Rémi et Caroline, des Parisiens de 40 ans, du genre de ces héros de romans écrits par des Parisiens de 40 ans. Je les ai connus tous les deux bien avant leur rencontre, avant que tout le monde ne prenne l'habitude de dire « Rémi et Caroline », de ne jamais dire « Rémi » sans ajouter « et Caroline », ni de prononcer le nom de Caroline sans y associer Rémi. Rémi et Caroline, ça aurait fait un bon nom de restaurant bio. Je les ai présentés l'un à l'autre. Lui donnait de temps en temps des dessins au journal pour le supplément du week-end. Elle était une tueuse de chez Goldman Sachs, dont je n'ai jamais compris les activités parce que je ne m'intéresse pas aux mœurs des fauves dans les steppes climatisées de la finance globale. Je l'avais connue enfant, elle était la meilleure amie de ma sœur avant que ma sœur ne se ravise et que j'hérite de l'amitié.
Et laissez-moi, si vous me le permettez, vous lire la fin de cette nouvelle que je n'ai pas pu vous diffuser en entier, faute de temps évidemment, je vous rappelle qu'elle est de Sylvain Tesson, ça s'appelle « S'abandonner à vivre ». Retour donc sur Rémi et Caroline à la fin de cette nouvelle. Ces deux-là qui s'aiment d'un amour absolument passionnel, même s'ils sont extrêmement différents. Ils s'aimaient, éberlués par ce qui les séparait. Leur amour procédait de la fascination des gouffres. Ils s'aimaient à travers une plaine ou plutôt d'une rive à l'autre. Au milieu coulait leur vie. Avant-hier soir, ils sont partis à moto dîner chez les parents de Caroline à Barbizon. Ils ont percuté de plein fouet le cul d'un camion tombé en panne dans la montée de Savigny-sur-Orge. Dans l'accident, ils se sont rendus un ultime hommage. Caroline a survécu. D'après les médecins qui surveillent son coma, elle peut encore tenir 40 ans. Elle ne se réveillera pas. Lui est mort sur le coup. Ça, mesdames et messieurs, c'est du Sylvain Tesson. Oui, ça glace le sang, il est comme ça. C'est une âme multiple et complexe que ce Sylvain Tesson, auteur français, qui a une passion dans la vie, du moins qui en avait une, parce que je pense qu'en ce moment, il l'a un petit peu moins, c'est la passion de grimper sur tout ce qui se présente de, entre guillemets, grimpable. Par exemple, échafaudage, manège, grue. D'ailleurs, ça porte un nom, ça s'appelle la stégophilie. Et c'est une passion qui a failli lui coûter la vie un soir bien arrosé. C'était au lancement d'un de ses livres qui s'appelle Bérésina. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Lorsque Sylvain Tesson a eu la très mauvaise idée de grimper la maison d'un ami à Chamonix. Moralité, il est tombé de 10 mètres, coma, fracture de vertèbre, fracture du crâne. Quelques mois plus tard, avec beaucoup de rééducation, plus de vodka à la maison, plus de folie furieuse dans les jambes à vouloir se croire immortel, l'homme est devenu beaucoup plus sage. C'est d'autant plus fou que cet éternel voyageur, Sylvain Tesson, qui a la bougeotte de façon permanente, a parcouru des milliers et des milliers de kilomètres à pied, notamment à travers l'Himalaya, mais aussi en Sibérie, où il a d'ailleurs calmé ses ardeurs, ce qui va donner un magnifique bouquin, dont on va écouter un extrait aussi dans quelques secondes. Il faut savoir que cet accident l'a marqué psychologiquement et physiquement. D'ailleurs, ça lui a fait dire « j'ai une très sale gueule et cela me coûte d'être devant un objectif. J'ai une gueule cubique, je peux aller draguer au musée Picasso ». Et c'est vrai que quand on observe la face, entre guillemets encore une fois, maganée de Sylvain Tesson, qui a été fortement secoué après cette chute, on comprend ce qu'il veut dire. Alors ça, c'est du Tesson pur laine, humour noir, phrase lapidaire, mais aussi un bonhomme, un auteur capable de beaucoup de poésie et d'empathie, vous savez, sous des airs de gars qui ne sourit que rarement et qui ne rit quasiment jamais. Et Sylvain Tesson, qui est un maître dans l'art de la nouvelle notamment. Alors, où est-ce que est là? On retrouve de Sylvain Tesson les livres suivants. Il y a par exemple « L'axe du loup » de la Sibérie à l'Inde sur les pas du goulag. Il faut savoir, et c'est dans ce livre qu'il y a 50 ans, quelques hommes innocents condamnés à une vie de détention ont refusé le destin d'esclaves que leur promettait Staline et se sont évadés. Ils préféraient les dangers de la traque à l'indignité du servage. Et quand je vous parle de traque, on parle de 6000 kilomètres d'étendue hostile à se faire pourchasser. Un autre livre au SQLA, Bérésina. C'est le soir où Bérésina est sorti d'ailleurs que Sylvain Tesson est tombé. Sylvain Tesson qui l'a décrit son voyage en sidecar de Moscou à Paris sur les traces de Napoléon, 200 ans presque jour pour jour après la retraite de Russie, la débâcle tragique oui, de l'armée française, les tourments des soldats, hein, les étapes du parcours. Dieu sait si les soldats ont énormément souffert durant cette débâcle-là. Alors Bérésina, c'est également disponible au SQLA, ainsi que le petit traité sur l'immensité du monde alors que Sylvain Tesson parcourt le monde à pied, à cheval, à vélo ou encore en canot. également sur les chemins noirs qu'il a écrit sur son lit d'hôpital alors qu'il se remettait de l'accident dont je vous ai parlé. Il est parti à la reconquête de lui-même depuis les Alpes-Maritimes dans le sud-est de la France jusqu'au Cotentin. Et c'est ce qu'il raconte dans ce livre. Il y a aussi une vie à coucher dehors, ça ce sont des nouvelles, ou encore s'abandonner à vivre dont on a entendu un extrait. Et puis, chez Gallimard, son éditeur, dans la collection Écoutez lire, en version sonore, on peut entendre également S'abandonner à vivre, mais aussi Dans les forêts de Sibérie. C'est une autobiographie. Deux chiens, un poêle à bois, une fenêtre ouverte sur un lac suffisent à la vie, écrit Sylvain Tesson. Oh, puis tiens, je me tais, j'aime mieux lui laisser la parole. Il va nous lire un extrait de Dans les forêts de Sibérie.
Dans les forêts de Sibérie, février-juillet 2010. Sylvain Tesson. Un pas de côté. Je m'étais promis avant mes 40 ans de vivre en ermite au fond des bois. Je me suis installé pendant 6 mois dans une cabane sibérienne sur les rives du lac Baïkal, à la pointe du cap des Cèdres du Nord. Un village à 120 kilomètres, pas de voisins, pas de route d'accès, parfois une visite. L'hiver des températures de moins 30 degrés, l'été des ours sur les berges, bref, le paradis. J'y ai emporté des livres, des cigares et de la vodka. Le reste, l'espace, le silence et la solitude, étaient déjà là. Dans ce désert, je me suis inventé une vie sobre et belle. J'ai vécu une existence resserrée autour de gestes simples. J'ai regardé les jours passer, face au lac et à la forêt. J'ai coupé du bois, pêché mon dîner, beaucoup lu, marché dans les montagnes et bu de la vodka à la fenêtre. La cabane était un poste d'observation idéal pour capter les tressaillements de la nature. J'ai connu l'hiver et le printemps, le bonheur, le désespoir et finalement la paix. Au fond de la taïga, je me suis métamorphosé. L'immobilité m'a apporté ce que le voyage ne me procurait plus. Le génie du lieu m'a aidé à apprivoiser le temps. Mon ermitage est devenu le laboratoire de ces transformations.
Sibérie dans la nuit, Sibérie dans mes yeux, Sibérie dans ton cœur, Sibérie dans la cour, Sibérie à la mort, il fait si froid dehors. Sibérie, Sibérie, Sibérie nuit et jour, Sibérie mon amour, Sibérie sous la pluie, Sibérie c'est mon tour, Sibérie tous les jours, Sibérie dans la nuit. Sibérie dans mes yeux, Sibérie dans ton cœur, Sibérie nuit et jour.
Et on va quitter l'univers de Sylvain Tesson avec, on va tout de suite rejoindre Faline Bobier qui doit être au bout du fil. Bonjour Faline.
Bonjour Clotilde, ça va?
Mais ça va très bien, oh vous avez une bonne voix. Faline, vous êtes de Caen, faut-il le rappeler, et très régulièrement vous apparaissez sur, apparaître c'est peut-être pas le bon mot. Vous illustrez, c'est pas bon qu'on le sait pas. Il y a des jours comme ça où on n'a pas le bon mot, je sais pas pourquoi.
Oh oui.
En tout cas, Faline, vous voulez nous présenter, tiens, ça va aller tellement plus vite, ça va être tellement plus simple, 2 livres aujourd'hui, je vous laisse la parole.
Ok, très bien, merci. Alors le premier, c'est un roman qui s'appelle Marc, c'est la poupée. Donc on l'appelle un roman, mais je pense qu'on pourrait aussi dire autobiographie ou journal. C'est écrit par Maria Majidi. Alors quand elle était une petite fille de 6 ans, elle est venue s'installer en France avec son père et sa mère après la révolution d'Iran à la fin des années 70. Donc... Dans le livre, ce qu'elle nous raconte, c'est vraiment à travers les souvenirs de ses premières années. Elle raconte l'abandon du pays, l'éloignement de sa famille en Iran, la perte de ses jouets, dont vient le titre, parce que ses jouets ont été donnés aux enfants de Téhéran avant son départ, sous l'injonction de ses parents communistes. Ah. Une fois en France, elle raconte l'effacement progressif du persan au profit du français, qu'elle va tour à tour rejeter, puis adopter frénétiquement au point de laisser enterrer de longues années à sa langue natale. Donc c'est vraiment, on pourrait l'appeler une fable autant qu'un journal. Elle nous raconte avec humour et tendresse, je pense, les racines qui peuvent fonctionner tour à tour comme fardeau, comme rempart, comme moyen de socialisation et même comme arme de séduction. Alors c'est un peu le livre de quelqu'un qui se sent des fois quelqu'un qui vient de nulle part, si vous voulez. Mais je trouve que c'est une très belle lecture.
Marx et la poupée de Mariam Majidi, ça s'écrit M-A-D-J-I-D-I. On tombe dans l'univers de Leonard Cohen ?
Oui.
Et quand je dis on tombe, on plonge avec
oui,
bonheur.
À profondeur, oui, c'est vrai. Alors, le livre, c'est « Étrange musique étrangère ». Alors, comme vous avez dit, le livre rassemble l'ensemble de ses poèmes. Évidemment, il est considéré comme l'un des artistes canadiens québécois les plus connus dans le monde. Alors, la traduction est signée par son ami Michel Garneau, qui est lui-même poète et dramaturge bien connu. Alors, Cohen, il reprend souvent les mêmes thèmes, l'amour, passion, la religion, la solitude, la sexualité et la complexité des relations interpersonnelles. Et la poésie et les chansons de Cohen, évidemment, ont influencé de nombreux auteurs, compositeurs, interprètes. On compte plus de 1500 reprises de ses chansons. Il est introduit au Panthéon de la musique canadienne en 91, au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en 2006 et même au Rock and Roll Hall of Fame en 2008. Il est un compagnon de l'Ordre du Canada et un grand officier de l'Ordre national du Québec, donc les plus hautes distinctions décernées respectivement par le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Il faut dire que moi, j'ai eu l'occasion de le voir en spectacle lors de sa dernière tournée à Toronto, quand il avait déjà bien dans les 70 ans, et il était vraiment magnifique.
Ah oui, hein?
Ouais. Alors, je pense que c'est très bien qu'il y ait une traduction pour les gens qui n'ont pas pu peut-être apprécier sa poésie en anglais.
En anglais.
Belle traduction en français.
On va en entendre, si vous le voulez bien, avant qu'on se quitte. Un extrait, justement. J'ai choisi un des poèmes. C'est lu par Michel Garneau et il va nous présenter lui-même le poème choisi.
Oh, très bien.
Déguisement. Je regrette que l'homme riche doive partir et sa maison devenir un hôpital. J'aime son vin, ses serviteurs méprisants, ses cérémonies vieilles de 10 ans. J'aimais son auto qu'il portait en coquille d'escargot partout, et j'aimais sa femme, les heures qu'elle mettait à sa peau, le lait, la luxure, les industries qui servaient son teint. J'aimais son fils, qui a l'air britannique, mais qui a des ambitions américaines, et a laissé le mot aristocrate le consoler comme un réprouvé pendant le règne Kennedy. J'aimais l'homme riche. Je supporte mal que son abonnement à l'opéra déchoit vers un club d'amateurs.
La poésie de Leonard Cohen, telle que traduite et lue par Michel Garneau, c'est magnifique hein, comme travail de traduction.
Oui, c'est très beau. Ça me fait presque pleurer de l'entendre.
Ah
ouais.
Oui, hein? Bon, puis c'est vrai que là, il y a le petit côté violon derrière. Je vous avoue que ça n'est pas sur l'enregistrement, mais je trouve que ça amène un petit plus. Moi, ça me fait plaisir de le faire parce que dans son intégralité, une œuvre comme ça, toute seule, drape sans musique, c'est correct. Mais quand on en prend juste un petit extrait, ça a l'air de quelque chose qui tombe de n'importe où. Alors, c'est pour ça que j'aime bien apporter un petit plus musicalement, Fellini. Oui.
C'est vrai qu'il était poète et musicien en même temps.
En plus, ouais. Et puis cette mélodie d'Alléluia, c'est quand même, tantôt vous nous disiez, et ça m'a surprise quand même, que 1500 personnes ont fait des reprises, ou en tout cas, il y a eu 1500 reprises de ses œuvres, ouais. Et notamment d'Alléluia, hein, qui a été tellement reprise, c'est fou,
qu'il
quoi.
Et qu'il a chanté d'ailleurs à Toronto, c'était vraiment incroyable.
Bon, il ne faut peut-être pas trop qu'on en parle parce qu'on va écouter un petit peu Leonard Cohen, mais j'aurais manqué de temps pour écouter Alléluia en entier, chanté par Leonard Cohen. Alors, on a choisi une autre chanson, mais pour se quitter, pour les auditeurs et pour vous-même, on va entendre Leonard Cohen dès maintenant. Merci beaucoup, Fellini Beaubier. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur.
Alors, on écoutait Leonard Cohen, bien sûr, que vous aurez reconnu dans The Partisan. On s'en va maintenant vers d'autres extraits sonores, parce que vous savez que vous écoutez Clotilde Say, c'est l'émission des livres plein les oreilles, l'émission qui est consacrée aux livres audio, quelle que soit la maison de production ou la plateforme qui vous permet de pouvoir vous mettre de la littérature plein les oreilles. Et là, j'ai une nouveauté pour vous qui n'est pas banale, elle nous vient de Radio-Canada, c'est Paul dans le Nord. Oui, c'est tiré, c'est vraiment l'extrait... Ah, c'est pas l'extrait, c'est le livre complet de Michel Rabagliati. Nous sommes en été 76, Paul à ce moment-là a 16 ans. Il ne rêve que d'une chose, une motocyclette Kawasaki KE100 pour fuir son quotidien et ses parents. Très envahissant. Alors avec Timarc, un nouvel ami rencontré à la polyvalente, Paul traversera cette période difficile de son adolescence avec un peu plus de légèreté. Voyage en autostop, soirée arrosée entre copains et expériences nouvelles seront au rendez-vous. Le tout sur fond de Jeux olympiques, de musique de Peter Frampton et de beaux dommages. On parle plus d'ailleurs ici de théâtre sonore que de livres audio. Je vous le dis d'ailleurs, il y a pas mal de comédiens. Voulez-vous savoir qui sont les comédiens, du moins quelques-uns qu'on peut entendre dans cette bande dessinée rendue maintenant sonore? Eh bien, vous allez reconnaître, notamment dans l'extrait qu'on va entendre, les voix de Denis Bernard qui fait la narration et Paul à l'âge adulte. Vous allez reconnaître aussi Claude Legault qui fait le père, Robert, Pierre-Luc Funk qui fait Paul, donc qui fait le rôle principal, et Diane Lavallée qui fait la mère, le rôle d'Aline. Mais sinon, là-dedans, il y a aussi les voix de Kathleen Fortin, Madame, il y a aussi, elle fait mamie, Madame Jourdouin, et la mère de Linda. Il y a Michel Rabagliati lui-même qui fait l'annonceur aux danseuses, qui est aussi conducteur et le gars de garage. Il y a David Savard, il y a Violette Chauveau, il y a Jean-François Mercier, Serge Chapleau, il y a même Michel Rivard dans le rôle d'un camionneur. Alors voici un extrait de Paul dans le Nord.
A enfin accepté de s'éloigner de sa mère et de sa tante qui vivaient pratiquement avec nous autres. Ma sœur Cathy en a profité pour partir de son côté en appartement avec Ivan, son nouvel amoureux. Ils ont acheté un chien, un berger allemand. C'est cave, mais même si on se chicanait tout le temps, Cathy, elle me manque.
Mon petit Christ, redonne-moi ça tout de suite!
Quoi, hein? Ton journal intime? Tu parles de Richard Brousseau?
Wouhou!
Main est retournée sur le marché du travail. Elle s'est trouvée une job dans une usine de souliers pour femmes. Père, lui, il travaille bien fort. Ils ont installé un nouveau système de photocomposition à son atelier. C'est lui qui gère tout ça. Il m'en parle des fois, ça a l'air de le passionner.
Vitesse. De plus, le Computer 88, il possède deux supports de fonte, plus 8 lentilles, ce qui donne la possibilité de sortir un caractère de la même famille de 6 à 72 points. Puis attention, 4 styles différents, romain, bold, italique.
L'an dernier, on a acheté un terrain à Saint-Sauveur. En fait, c'est ma grand-mère et ma grande-tante qui nous l'ont donné pour qu'on se construise à côté d'eux autres. Ma a eu de la misère à avaler ce cadeau-là, mais comme Pa a fait son effort en ville, elle a fini par accepter l'idée du chalet.
Puis on les verra juste les week-ends. C'est pas comme s'ils étaient avec nous autres, là. Ils ont leur chalet.
OK, OK, Robert. Mais n'empêche qu'ils se sont encore une fois arrangés pour que ça se passe à leur goût. J'espère qu'on le regrettera pas.
Moi, de mon côté, j'attends le début de l'école en travaillant la semaine avec mon oncle Rénal qui a quelques contrats de paysagement. Je rêve de m'acheter une moto l'été prochain quand je vais avoir 16 ans. Il me manque encore pas mal d'argent pour y arriver, puis pas veut pas me donner une maudite scène. T'as vu, ta gang, qui me dit.
En ce qui a trait au stade, selon l'échéancier, ces 34 piliers devaient être installés le 15 décembre dernier. Or, il n'y en a jusqu'ici que 10.
Ah, bravo, le bravo novembre, les syndiqués. Le belle bande d'incapables. On est fiers, là. Hein? Wow.
De 6 jours par semaine.
Paul dans le Nord en version audio. Vous trouverez ça gratuitement sur le site de livres audio de Radio-Canada. Chez Audiolibre, on nous recommande un polar assez sanguignolant. Nous sommes dans la famille Spencer qui vient de s'installer à Mahingan Falls. Et jusqu'ici, tout va bien. C'est un vrai paradis, si ce n'était, bon, de vieilles rumeurs de sorcellerie. Ces communications téléphoniques brouillées par des cris inhumains, ce quelque chose d'effrayant dans la forêt qui pourchassent leurs adolescents et un shérif dépassé par des crimes horribles. Avez-vous déjà vraiment eu peur en lisant un livre? Vous risquez bien d'avoir peur en lisant celui-ci. Extrait.
Le piano tanguait en équilibre sur la plateforme arrière du camion de déménagement lorsque Thomas Spencer vit la sangle se rompre brutalement, libérant le monstre de corde qui s'effondra aussitôt sur le manutentionnaire tout en air qui se tenait dessous, l'écrasant contre le bitume de la route. Le plateau du clavier vint lui fracasser la boîte crânienne dans un terrible craquement humide et une éclaboussure de sang noir. Thomas cligna des yeux pour chasser cette horrible image. La sangle tenait parfaitement le piano, malgré ses doutes, et l'instrument descendit du camion sans blesser quiconque. « Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi pour que j'imagine toujours le pire ?» La ferme, comme s'appelait leur nouvelle maison, était posée à une dizaine de mètres de la petite rue, perdue au milieu d'une pelouse mal entretenue et cernée d'arbres à perte de vue. C'était justement ce qui les avait séduits. Cette grande maison, le long d'une impasse, en bordure de ville, sous le regard des hautes collines, noyée dans un écrin de verdure. L'exact opposé de leur vie new-yorkaise. Un véritable défi pour des citadins patentés. Mais à l'instant présent, Tom sentait que cette ouverture sur le monde risquait aussi de poser des problèmes.
Ça s'appelle « Le Signal », c'est signé Maxime Chatane et c'est une nouveauté, c'est sorti fin janvier 2019, on trouve ça entre autres sur la plateforme Audiolib. Voilà pour « Des livres plein les oreilles » présentés pour vous et réalisés pour vous également par Clotilde Seille. Je voudrais remercier Maurice Bolduc ainsi que tous mes invités cette semaine, Jean-Marie Lapointe, Yannick Olassa et Faline Beaubier. Merci à vous d'être là fidèlement à chaque semaine. Bonne lecture mes amis. Je vous souhaite de vous mettre plein de livres, plein les oreilles. Salut.